Avec Orange Monnaie pour le transfert d'argent de la France vers la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Marie Cazadebet.
Bonjour à tous, bienvenue dans Appel sur l'actualité jusqu'à 9h temps universel. C'est vous qui avez la parole sur RFI. Dans une demi-heure, donnez-nous votre avis sur le nouveau régime de grève qui entrera en vigueur au Tchad. Dès janvier, les fonctionnaires grévistes ne seront plus payés. Une mesure annoncée en plein mouvement social. Cela fait plus de 3 mois que l'administration est quasiment paralysée. Les fonctionnaires dénoncent les effets des mesures d'austérité prises par le gouvernement. Un gouvernement confronté à une grave crise économique. Avant cela, vos questions sur l'actualité. Nos journalistes et nos experts pour y répondre. Ce matin, on parle des dernières nominations de Donald Trump aux États-Unis, du mouvement séparatiste basque ETA, mais d'abord de la dernière résolution de l'ONU à l'encontre d'Israël. Nous avons deux auditeurs qui s'interrogent à ce sujet. D'abord, Arfan qui nous appelle de Richertol, c'est dans le nord du Sénégal. Bonjour Arfan.
Bonjour Marie, comment vous allez?
Ça va très bien, bienvenue sur l'antenne. Arfan, on écoute vos questions sur les relations entre les États-Unis et Israël.
En fait, j'aimerais faire part de cette phrase qui dit que trop de morale suscite l'hypocrisie et le monde entier a trop moralisé sur le conflit israélo-palestinien. Et aujourd'hui, il est temps de faire la justice car les Palestiniens en ont franchement besoin.
Arfan, on vous demande voilà juste les questions sur ce sujet-là, s'il vous plaît.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté la résolution qui dénonce la colonisation israélienne sur les Palestiniens. Pourquoi les Américains font volte-face cette fois-ci pour s'abstenir de ces votes alors qu'ils soutenaient Israël auparavant? Est-ce que l'arrivée de Donald Trump changera quelque chose sur la résolution de l'ONU?
C'est Guilhem Deltay, notre correspondant à Jérusalem, qui va vous répondre, Arfan. Bonjour Guilhem.
Bonjour Marie, bonjour Arfan.
Alors notre auditeur fait allusion évidemment à la résolution votée vendredi dernier qui appelle Israël à cesser immédiatement toute activité de colonisation en territoire palestinien. Et c'est vrai que les États-Unis s'étaient jusque-là abstenus à ce sujet. Comment expliquer alors l'abstention des États-Unis alors qu'ils utilisaient leur droit de veto à chaque fois jusqu'ici?
Alors, on savait que Barack Obama aurait certainement une initiative sur le conflit israélo-palestinien d'ici la fin de son mandat. Le président américain avait reçu le prix Nobel de la paix, vous vous en souvenez, en 2009. Un an après son alors qu'il tentait notamment de relancer ce processus de paix entre Israéliens et Palestiniens. Mais ces désaccords persistants avec Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, et notamment sur cette question très problématique de la colonisation, ne lui ont pas permis d'avancer sur ce dossier. Le processus de paix est au point mort. Il n'y a pas eu de négociation directe entre Israéliens et Palestiniens depuis 2012. Mais l'entourage de Barack Obama avait fait savoir que le président sortant voulait laisser un héritage dans ce dossier. Aucune action n'était possible avant l'élection présidentielle pour ne pas que cela ait des conséquences sur la campagne d'Hillary Clinton, la candidate démocrate. On attendait donc une initiative après. Le vote d'une résolution semblait être l'éventualité la plus extrême, finalement, parce que d'autres options étaient évoquées, comme un simple discours sur les paramètres d'un plan de paix. Mais Donald Trump a déclaré qu'il reconnaîtrait Jérusalem comme capitale indivisible d'Israël, ce qui veut dire qu'il accepterait l'annexation de la partie est de la ville par l'État hébreu. Il partage aussi l'avis de Benjamin Netanyahou sur la...
Guilhem Deltay, malheureusement la liaison a coupé avec Jérusalem. J'espère qu'on va pouvoir à nouveau joindre notre correspondant en Israël pour parler de cette résolution du Conseil de sécurité de l'ONU à l'encontre de l'État hébreu. Est-ce qu'on arrive à joindre Guilhem Deltay à Jérusalem? On essaie de le rappeler, Arfan, j'espère que vous êtes toujours en ligne avec nous. On vient de retrouver Guilhem Deltay. Guilhem, vous nous disiez déjà que l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis à la présidence risquait déjà de changer des choses. C'était une question de notre auditeur sénégalais.
Alors, l'arrivée de Donald Trump risque de changer des choses sur la politique américaine menée ici, puisque Donald Trump a dit qu'il voulait reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, alors que jusqu'à présent, la communauté internationale ne reconnaissait pas Jérusalem comme capitale d'Israël, en disant que le sort de Jérusalem devait être décidé lors de négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens. En attendant, les ambassades sont installées à Tel Aviv, donc ça serait un changement assez radical. Il a effectivement aussi, il n'a pas la condamnation de la colonisation comme Barack Obama l'air. Là, en revanche, l'arrivée de Donald Trump ne devrait pas changer grand-chose sur cette résolution, même rien à vrai dire, puisque cette résolution, maintenant, elle est inscrite dans le marbre de l'ONU.
Guilhem, il y a beaucoup de vent autour de vous. On a du mal à entendre vos explications. Je vous propose qu'on revienne un peu plus tard, s'il est possible, donc aux questions de nos auditeurs sur cette résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Malheureusement, on va donc passer à un autre sujet. Est-ce que nous avons notre auditeur de Godomé au Bénin, Moïse ? Il est en ligne avec nous. Bonjour Moïse.
Bonjour Marie et tous les auditeurs de RFI.
Soyez le bienvenu. Vous aviez, vous, des questions sur deux nouveaux membres de la future administration de Donald Trump aux États-Unis.
Oui, effectivement. Donald Trump a nommé la semaine dernière dans son équipe un milliardaire et un économiste très contesté. Et j'aimerais alors savoir, d'une part, quel sera l'impact de la nomination de Carl Icahn dans la politique économique américaine vis-à-vis de leur principal rival qu'est la Chine. Et d'autre part, est-ce que dans l'équipe Trump, qui est composée de nombreux hommes d'affaires, il ne se posera pas plus tard le problème de conflit d'intérêts?
Alors, c'est Françoise Coste qui va vous répondre, maître de conférence à l'Université de Toulouse. Françoise Coste, qu'on a du mal à joindre, décidément, ce matin, c'est compliqué. Dites-moi, est-ce qu'on passe à un autre auditeur ? Je pose la question de l'autre côté de la vitre en régie. Alors, on va joindre Abdoul. Mais du coup, ça veut dire qu'on a notre correspondant à Jérusalem en ligne avec nous ? Alors, on a retrouvé, désolé hein, pour tous ces changements, beaucoup de mal à joindre ce matin nos correspondants. Donc on va tout de suite revenir à notre sujet sur Israël, sur cette résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. On avait un deuxième auditeur, Abdoul, à Charenton-le-Pont, qui s'interrogeait là-dessus. Bonjour Abdoul.
Oui, bonjour Marie.
Alors on vous écoute Abdoul. À Charenton-le-Pont, la ligne devrait être bonne. C'est à côté
oui,
d'ici.
Oui, là c'est la meilleure. Donc j'ai trois questions concernant cette résolution.
On vous écoute.
La première est quel est l'avenir de cette résolution face à un État palestinien? La deuxième, peut-elle permettre la création de deux États? Et la troisième question, est-il possible que la Palestine récupère ses territoires colonisés car la résolution parle de l'arrêt de la colonisation, mais pas de la récupération du territoire colonisé?
Alors, Guilhem Deltay, vous êtes avec nous à nouveau?
Je suis là, Marie. J'espère que vous m'entendez cette fois-ci.
Oui, cette fois-ci, très bien. Donc, en direct de Jérusalem, nous avions un premier auditeur tout à l'heure, là, Orfan, donc, qui nous appelait du nord, du Sénégal, qui n'a pas eu l'occasion de poser une question qui me paraissait intéressante. Il se demandait si l'ONU pouvait maintenant prendre des sanctions si Israël poursuivait sa politique de colonisation depuis donc le vote de cette résolution.
Alors, la question des sanctions contre Israël, c'est une vraie crainte hein, ici de la part du gouvernement. Il est peu probable toutefois que ces sanctions puissent venir de l'ONU en tant qu'organisation. Il est vrai que l'un des paragraphes de cette résolution appelle les pays à tenir compte, en fait, dans leurs relations avec Israël, du fait qu'il y a une colonisation menée par l'État hébreu sur une partie des territoires occupés. Cela pourrait se traduire finalement par des changements dans les relations bilatérales. On sait que la France, par exemple, a quelques semaines mis en pratique une directive de l'Union européenne qui demande d'étiqueter sur les produits les produits justement qui viennent des colonies israéliennes et de faire la distinction entre un produit qui vient des territoires internationalement reconnus d'Israël et des colonies, ce qui avait provoqué ici des réactions assez vives aussi, le gouvernement comparant cela à une démarche de boycott. D'autres pays pourraient donc emboîter le pas à la France et à l'Union européenne, puisqu'encore une fois c'était une directive européenne et pas une initiative française spécifiquement. Ça fait partie des craintes de l'État hébreu, puisque cela aura des conséquences sur son économie. L'autre grande crainte ici de la part du gouvernement israélien, elle porte sur d'éventuelles plaintes devant la Cour pénale internationale. Un proche de Mahmoud Abbas a dit dimanche soir à la télévision israélienne qu'ils étaient prêts à aller devant la Cour pénale internationale dès l'année prochaine et de poursuivre des centaines de soldats israéliens qui ont servi dans les territoires occupés. Ça fait partie effectivement des craintes. Ça ne serait pas lié directement à cette résolution-là. Ceci dit, cette résolution pourrait peut-être, ça sera un débat juridique derrière, servir de base juridique justement dans le droit international pour mener des poursuites ensuite contre contre des soldats israéliens ou des dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale. Une cour que toutefois l'État hébreu ne reconnaît pas, donc il n'y aurait pas de conséquences directes. Ce serait surtout une atteinte quand même à l'image d'Israël dans le monde.
Alors on en vient maintenant aux questions d'Abdoul que vous avez entendu à Charenton-le-Pont, donc en région parisienne. Il s'interroge sur les attentes que peuvent avoir les Palestiniens de cette résolution. Est-ce que c'est une étape vers la solution à deux États ?
Alors, cette résolution réaffirme aux yeux de la communauté internationale qu'il n'y a finalement pas d'autre solution qu'une solution à deux États, un État israélien donc et un État palestinien vivant démocratiquement et en paix l'un à côté de l'autre. Mais c'est ce qui est dit dans la résolution, sauf que dans la réalité, on sait que Donald Trump va prendre la présidence des États-Unis d'ici moins d'un mois. Or, son discours à lui est un petit peu différent. Il ne fait plus référence à cette solution à deux États. Il n'en a pas parlé lorsqu'il a rencontré Benjamin Netanyahou en marge du sommet de l'ONU en septembre dernier, alors qu'il n'était encore que candidat. Et puis il y a cette réalité sur le terrain, les colonies qui morcellent totalement la Cisjordanie. Plus de la moitié du territoire de la Cisjordanie est aujourd'hui encore totalement administré par Israël. Ce qui pourrait se passer si la colonisation israélienne en Cisjordanie se poursuit, c'est que finalement les Palestiniens utilisent cette résolution pour réclamer à leurs partenaires, et notamment les pays qui l'ont voté, comme la France, la reconnaissance de leur État. Je vous rappelle que pour la France, par exemple, le Parlement a voté une résolution demandant la reconnaissance de l'État palestinien. Cette démarche doit être suivie derrière par le gouvernement, ce que pour l'instant le gouvernement français ne s'est pas résolu à faire.
Guilhem, une dernière question, toujours posée par Abdoul. Est-ce que les Palestiniens peuvent espérer récupérer à terme des territoires colonisés ?
Alors, c'est toujours le discours officiel, évoquant la conférence de Paris qui est prévue désormais le 15 janvier prochain, soutenue par cette résolution de l'ONU. Saeb Erekat, qui est le numéro 2 palestinien, le numéro 2 de l'Organisation de Libération de la Palestine, le négociateur en chef, a hier dit que la France et la Palestine travaillaient pour une solution à deux États basée sur les frontières de 1967, en accord avec les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc ça, c'est une dernière déclaration officielle palestinienne qui évoque donc encore cette ligne de 1967, ces frontières-là, donc au-delà desquelles Israël a mené depuis un certain nombre de constructions de logements. Et en fait, la réalité sur le terrain, du coup, elle est quand même différente. On parle aujourd'hui de près de 600 000 colons en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. On a du mal à imaginer un retrait et un déplacement de plus d'un demi-million de personnes, pour la très grande majorité des personnes profondément attachées à la terre sur laquelle elles habitent et pour certaines prêtes à se battre pour y rester. La solution aujourd'hui qui commence à être de plus en plus évoqué serait peut-être un échange de territoire. Les principales colonies resteraient israéliennes. En échange, Israël donnerait aux Palestiniens des villages d'Arabes qui se trouvent sur son territoire depuis 1948. Une solution qui est par exemple préconisée aujourd'hui par le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman.
Merci beaucoup, Guilhem Deltaï, d'avoir été en liaison, en direct avec nous de Jérusalem, même si ça a été compliqué. Et merci pour la patience d'Abdoul et d'Arfan qui ont eu enfin donc les réponses à leurs questions. On va passer à un autre sujet. À celle des non-nominations, des dernières nominations de la future administration de Trump. Moïse, notre auditeur de Godomé au Bénin, nous le disait tout à l'heure, il s'interroge sur les deux dernières nominations, celle de Carly Khan et de Peter Navarro. C'est Françoise Coste qui va nous répondre, nous aider à y voir plus clair. Maître de conférence à l'Université de Toulouse, Jean Jaurès, spécialiste des États-Unis. Bonjour Madame Coste.
Bonjour.
Alors, commençons par la nomination de Peter Navarro. Il prend la tête d'une nouvelle institution, le Conseil du commerce national de la Maison-Blanche. On le dit très anti-Chine, je donne juste le nom de deux ouvrages très alarmistes qu'il a signés, The Coming China Wars, Les guerres chinoises à venir, et Death by China, La mort par la Chine. Quel pourrait être alors l'impact de cette nomination sur la Chine ? Est-ce que Pékin a des soucis à se faire ?
Ça, c'est une question centrale, je pense, parce que vous rappelez, il y a deux ou trois semaines, il y avait eu ces tweets de Trump qui assumait complètement d'avoir parlé directement à la présidente de Taïwan. On aurait pu se dire que ça, c'était une erreur de débutant, qu'il ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait. Par contre, cette nomination, elle, parce qu'elle a un caractère officiel, parce que ce monsieur va travailler à la Maison-Blanche pendant, on peut penser, longtemps, ça, c'est beaucoup plus concret. Et effectivement, ça semble confirmer l'hostilité très forte de Donald Trump par rapport à la Chine, sur des questions en particulier. Alors, avec le coup de fil sur des questions géostratégiques et avec cette nomination sur des questions commerciales.
Et concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer de la politique, la future politique de Peter Navarro, les conseils qu'il va donner à Donald Trump ?
Alors, ça a l'air d'être... Les premiers signes sont apparus dès la semaine dernière, où le nouveau chief of staff de Trump a rencontré des élus républicains au Congrès. Et ce qui a fuité de ces réunions, c'est que l'administration Trump va sans doute proposer une augmentation des taxes douanières sur les importations. Alors, pas que les importations qui viennent de Chine, mais... Vu l'ampleur des importations qui viennent de Chine, la Chine serait directement touchée. Les chiffres, en fonction de ce qu'on entend, varient entre 5 et 10%.
Donc et la Chine a vraiment des soucis à se faire. J'imagine que les États-Unis sont un gros client. C'est tout un pays qui va devoir se réorganiser si vraiment cette politique est appliquée.
Disons que si cette politique est appliquée, il y a quand même un grand oubli dans l'histoire de la part de l'administration Trump, c'est qu'on ne peut pas impunément s'attaquer ainsi à la Chine, parce que dans l'autre sens, la dette américaine, depuis des années, est en très grande partie contrôlée par la Chine. Donc la Chine a quand même un moyen de pression financier très fort. Les États-Unis sont très endettés, ils étaient déjà sous Bush, ils ont continué à emprunter sous Obama, en particulier pour financer la reprise après la récession de 2008. Donc la Chine a des outils dans sa boîte à outils pour répondre du tac au tac aux États-Unis. Et donc ça c'est un test, personne ne veut voir en fait. C'est une grande question internationale depuis des années, mais personne ne veut voir ça entre la Chine et les États-Unis. Finalement, qui est le plus fort? Qui est le plus riche? Qui est le plus puissant? Mais il vaut ne pas trouver la réponse à cette question.
Alors les relations entre Xi Jinping et Obama n'étaient finalement pas si mauvaises. Comment vous imaginez celle entre Xi Jinping, donc le président chinois, et le futur président des États-Unis, Donald Trump?
Glacial, d'autant plus que, en plus, il faut à cette question, il faut ajouter le fait qu'en parallèle, on semble se diriger vers d'excellentes relations entre les États-Unis et la Russie. Donc on peut imaginer dans ce triangle un axe Moscou-Washington contre Pékin. Et ça, personne ne peut prédire ce que ça va donner, parce que ce serait historiquement complètement nouveau.
On aura sûrement l'occasion d'y revenir. Beaucoup de questions souvent de la part de nos auditeurs sur la politique américaine, et d'autant plus depuis l'élection de Donald Trump. On va en venir maintenant à l'autre question de notre auditeur Moïse au Bénin. Celle qui concerne la nomination de Carly Khan, qui devient conseiller spécial en charge de la régulation. Il devra simplifier les règles jugées excessives par Donald Trump qui pèsent sur les entreprises américaines. Alors on précise juste qu'il a fait fortune à Wall Street dans les années 80. Est-ce qu'il pourra continuer ses activités d'investissement, et en quoi peut-on avoir des doutes sur d'éventuels conflits d'intérêts avec cette nomination?
Les doutes sur les conflits d'intérêts, ils ont commencé dès la candidature de Trump, en fait, et ils ne font que s'aggraver parce que l'immense majorité de ces nominations, et Carly Khan, c'est peut-être le symbole le plus excellent de tout ça, c'est qu'il nomme des businessmen autour de lui, comme lui. Et des businessmen encore plus riches. Carly Khan, il vaut, je crois, 15 milliards de dollars. Donc, c'est déjà le cabinet, le gouvernement américain le plus riche de l'histoire. Il y a déjà eu des gens très riches au gouvernement américain, mais si là, on fait l'addition, c'est le gouvernement le plus riche.
C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que Carly Khan choisisse de faire des politiques, d'appliquer des politiques qui lui soient favorables à ses affaires. C'est ça, en fait, les doutes qui se posent.
Surtout qu'il a des intérêts dans une myriade d'entreprises, dans tous les secteurs que vous pouvez imaginer. Et pour l'instant, aucun de ces milliardaires n'a annoncé qu'il se retirait de ses affaires ou qu'il prenait la retraite du monde du business pour se consacrer à la politique. Donc c'est Carly Khan, mais c'est tous les autres autour de lui qui, effectivement, vont sans doute lancer des baisses d'impôts au début de l'année prochaine qui vont leur bénéficier directement tellement qu'ils sont riches, et bien entendu, lancer des politiques commerciales et économiques qui favoriseraient les multiples entreprises dans lesquelles ils sont impliqués.
Ça veut dire qu'aux États-Unis, rien ne peut empêcher une personnalité politique de continuer à avoir des activités économiques, même si elles sont contradictoires.
Alors, là, c'est très compliqué, parce qu'en fait, on se rend compte aujourd'hui que jusqu'à présent, il y avait quelques lois qui obligeaient, par exemple, un peu comme ce qui s'est passé en France ces dernières années, il y avait quelques lois qui obligeaient les hommes politiques et les responsables élus à rendre public leur patrimoine, par exemple, pour voir si, dans le courant de leur mandat, leur patrimoine augmente et s'ils se sont enrichis grâce à leur position au sein du gouvernement.
Merci Françoise Coste. Malheureusement, il est bientôt l'heure de la fin de cette première partie, mais restez avec nous, juste après le journal, notre débat sur RFI. Retrouvez l'ensemble